clôture demain mercredi 23 février 2022 de l'opération d'enregistrement de candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs prévue le 6 avril prochain dans 14 provinces de la RDC. Les candidats des partis politiques et candidats indépendants sont en train de déposer leurs candidatures dans les provinces concernées. C'est le cas du Congo central où le bureau de réception et de traitement des candidatures annonce ce mardi 22 février avoir réceptionné 14 candidatures dont celle de deux femmes. Ces candidats sont tous des indépendants. Pour sa part, l'Union sacrée de la nation qui est déterminée à gérer ces 14 provinces a depuis ce lundi 21 février procédé à la répartition des postes selon les partis alliés. Les plateformes politiques de l'opposition, FCC et Lamuka, ne se sont pas encore prononcées au sujet de cette élection. Quelle analyse faire des enjeux de la prochaine élection des gouverneurs dans les 14 provinces concernées? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 22 février 2022. Participe au débat professeur Jean-Claude Chilumbaï, député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Professeur Chilumbaï, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur Alphonse Maïndo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et André Katambwe, député national et cadre du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment, mais vous, auditeurs des Radio Capi, vous êtes déjà très nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Sonny César Benjamin depuis Ariwara à Arou. Ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas avoir des gouverneurs de l'Union sacrée à la tête des provinces. Nous avons besoin des personnes qui travaillent pour le peuple et non celles qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Prédit Mbonda à Kinshasa que l'intérêt du peuple passe avant tout. En Mbujimayi dans la province du Kassai Oriental, vous nous suivez sous la 93.8 et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radiocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La Commission électorale nationale indépendante CENIS active pour l'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs prévue le 6 avril dans 14 provinces de la RDC. À Kananga, au Kasaï central, les opérations ont repris avec l'enregistrement des candidats, des témoins et des observateurs. François Kadima nous en parle.
C'est depuis le 13 février que les bureaux de réception et traitement de candidature a ouvert à Kananga pour ceux ou celles qui veulent compétir pour diriger la province du Kasaï central. Sur la liste journalière affichée au valve du secrétariat exécutif provincial de la CENI, l'on retrouve jusque-là 4 candidats et une candidate avec leur colistier. Ce, en attendant d'autres compétiteurs qui s'ajouteront avant la fin de dépôt de candidature ce mercredi. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI rappelle à tous les candidats la nécessité de respecter cette échéance, qu'il n'y aura pas de délai supplémentaire. Pour les témoins, les observateurs et les journalistes, le bureau d'accréditation a été ouvert depuis le 7 février et il va fonctionner jusqu'au 30 mars prochain. Alors que le retrait de formulaires se poursuit, Joseph Mputu explique qu'il y a certaines conditions à respecter pour participer à ces élections. Si pour les observateurs et les journalistes, la demande doit être introduite au plus tard 15 jours avant le scrutin, le témoin le feront 7 jours avant le vote. De Kananga, François Kadima, Radio Capi.
Au Congo central, le processus électoral pour l'élection du gouverneur et vice-gouverneur évolue bien depuis qu'il a été déclenché en octobre 2021 dernier par l'ouverture du bureau des réceptions et traitement des candidatures. 14 candidatures ont déjà été enregistrées. Bon nombre des candidats gouverneurs au Congo central sont d'après la liste provisoire publiée par le secrétariat exécutif de la CENI Congo central des indépendants. Professeur Jean-Claude Chilumbaï, je rappelle que vous êtes député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Demain, c'est la clôture de l'opération d'enregistrement des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs prévue le 6 avril prochain dans 14 provinces de la RDC. L'Union sacrée est-elle prête avec ses listes?
Je suis aussi, madame, rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS qui s'est chargée de sélectionner les candidatures de l'UDPS aux différents postes à pouvoir dans cette élection. Et donc, c'est vous dire que l'Union sacrée est prête avec toutes ces candidatures parce qu'au niveau de l'UDPS, tout a été fait et que le secrétaire général du parti, M. Augustin Kabuya, avait la charge de devoir prendre des contacts utiles pour des alliances si nécessaire et de pouvoir engager le parti à cet effet. Je crois que tout a été fait à temps et que nos différents candidats se trouvent bel et bien au lieu de dépôt des candidatures pour finaliser les procédures utiles.
L'objectif de l'UDPS, c'est d'avoir des gouverneurs dans les 14 provinces concernées ou bien vous allez céder certaines provinces à vos alliés?
À l'UDPS, madame, moi, comme responsable, l'un des responsables en charge de la question électorale, l'ambition, c'est bien évidemment que les provinces soient dirigées par l'UDPS pour que nous ayons la possibilité de dérouler avec cohérence notre projet de société. Mais bien, nous avons des alliés, nous sommes dans une grande plateforme politique, l'Union sacrée, vous venez de l'évoquer là-dessus. Il ne m'appartient pas à moi de décider avec qui on s'engage et comment on le fait. Nous sommes un service technique du parti, nous avons fait ce travail à l'interne. Il appartient à monsieur le secrétaire général qui doit ou qui a la charge d'entrer en contact avec les autres partenaires, de devoir faire des équilibres nécessaires là où on estime que tel allié pourrait avoir beaucoup plus de chances pour autant que nous tous nous soyons dans l'esprit de travailler pour la réussite du mandat du chef de l'État. On devra donc trouver les accommodations nécessaires afin que nous allions à cette élection pour la gagner et tenter de faire notre mieux pour que nos populations trouvent la stabilité, trouvent du sourire et le bonheur de vivre dans ces provinces-là qui sont en train de se vider à cause des différents désordres qui y sont vécus.
Professeur Jean-Claude Chilumbaï, certains députés provinciaux vous accusent, vous de l'Union sacrée, vous dirigeants de l'Union sacrée, de vouloir leur imposer des candidats depuis Kinshasa.
Il n'en sera pas ainsi. D'abord, il faut tenir au fait que chaque parti a ses statuts et son règlement intérieur. À notre niveau, effectivement, ces candidatures doivent être imposées de Kinshasa parce que les statuts prévoient que c'est la commission électorale permanente du parti qui sélectionne les candidatures en concertation avec les commissions électorales provinciales. Et nous l'avons fait. Dans l'unique province où nous avons eu d'énormes difficultés, la liste de candidatures nous est venue de la commission électorale locale avec la fédération de Mbujimayi, par exemple. C'est eux qui ont recruté des candidatures et nous les avons envoyés ici pour les traiter conformément à nos statuts. Et lors du traitement d'ailleurs, nous avons associé tous les candidats qui compétissaient à cette élection, nous les avons associés. Il s'est tenu de très nombreuses réunions pour tenter de trouver des équilibres nécessaires et peut-être un désistement des uns en faveur des autres. Ça n'a pas été. Nous sommes un parti très démocratique. Nous avons résolu de passer par la méthode démocratique que nous impose nos statuts. On s'est donc retiré loin de Kinshasa, loin de Bruxelles, de Kinshasa, loin des menaces de qui que ce soit, pour devoir nous livrer à cet exercice qui a été une démonstration extraordinaire de notre sens élevé de démocratie et du respect des textes, mais aussi de transparence. Tous les candidats ont assisté dans une salle fermée, sous l'encadrement des forces de sécurité sans aucune menace, et que chacun est parti de là satisfait, parce que le vote s'est déroulé en toute transparence, il y a eu des désistements en toute transparence, et nous avons sorti un seul candidat. Vous avez bien suivi que tous les candidats aujourd'hui, ceux qui compétissaient, sont en train de soutenir, se sont prononcés quant à ceux. Donc, il n'y a pas une position de Kinshasa à nos bases respectives, mais plutôt il y a une procédure qui partait de bas en haut. Lorsqu'elle est arrivée à Kinshasa, elle a trouvé un dénouement conforme à nos statuts du parti. Seulement, peut-être que nous allons demander à nos partenaires de pouvoir tenter de tenir à des principes démocratiques pour que nous n'entrions pas en phase avec ce qui est requis dans l'idéologie, dans la philosophie du chef de l'État.
L'objectif de l'Union sacrée de la nation, c'est d'avoir dans les 14 provinces concernées des gouverneurs et vice-gouverneurs qui appartiennent à l'Union sacrée. Alors, il y a beaucoup de gens qui pose quand même la question de savoir ce qui se cacherait ou se préparerait derrière cet objectif d'avoir des gouverneurs et vice-gouverneurs, tous membres de l'Union sacrée, dans les provinces, la quasi-totalité des provinces de la RDC.
Nous sommes la majorité, madame, c'est aussi ça la démocratie. Lorsque vous observez dans ces 14 provinces, vous constaterez qu'il y a eu des déclarations des députés provinciaux dans leur quasi-unanimité d'adhésion au principe de l'Union sacrée, ce qui signifie qu'il n'est pas la question de vouloir s'accaparer de quoi que ce soit. Nous sommes dans une démocratie pluraliste et le principe majoritaire devra continuer de primer, de sévir pour autant qu'il y a une majorité qui doit diriger. En fait, quoi que l'on dise, le mandat impératif n'est pas de mise dans notre système électoral. Les députés sont devant leurs responsabilités, ils vont devoir s'acquitter de cette tâche, je crois, avec honneur et engagement à pouvoir mériter de la confiance que le peuple a placée en eux. Chacun de nous a cette conscience. Je crois que cette élection se fera en toute démocratie. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'inviter les autres composantes, les autres partis politiques et les mouvements politiques, ceux qui sont tentés par cette aventure, de se jeter dans l'eau, de présenter leur candidature et de pouvoir compétir. Et que le meilleur gagne, vous savez, nous respectons les principes démocratiques. Nous sommes allés à ces élections au début du mandat. Nous avons aligné certaines candidatures dans certaines provinces. Il y a eu des pertes. Nous ne sommes attaqués à personne. Il y a même des provinces où nous avions autant de députés, presque la majorité, nous n'avons pas gagné. Nous avons perdu dans des endroits où nous avions des députés. Nos sénateurs n'ont pas été élus, nous n'avons pas cassé la marmite, nous sommes inclinés devant le vote de députés sur les lits du peuple et nous avons respecté le principe du mandat qui n'est pas impératif quant à ça. On a respecté les volontés. Donc il faut qu'il en soit ainsi, même à cette élection, parce que les députés devront voter en toute liberté et nous avons choisi de présenter nos candidatures de compétir, les autres ont la même liberté.
Professeur Jean-Claude Chilumbayi, l'Union sacrée de la nation est déterminée à gérer les 14 provinces concernées par l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Depuis hier lundi, il y a une liste qui circule de l'Union sacrée, une liste sur laquelle on trouve la répartition des postes selon les partis alliés. Est-ce que cette liste est authentique?
Je ne peux l'authentifier, madame, tout comme je ne peux pas la contester, parce que il est du pouvoir du secrétaire général, M. Augustin Kabuya, de participer à ces discussions et d'engager le parti dans ces discussions-là. S'il a participé à ces discussions et qu'il a dû engager le parti, c'est une liste qui nous engage. Mais à mon niveau, je ne peux pas vous dire qu'elle est une liste authentique. Je devrais, comme elle a circulé ce matin, entrer en contact avec le secrétaire général pour qu'il me dise si elle est authentique ou non. Si elle est authentique, elle est notre liste parce que c'est lui qui se sera engagé et c'est lui qui a le mandat de le faire.
On me garde encore dans cette émission, professeur Jean-Claude Chilumbayi. Le temps pour nous de donner la parole à André Tamboué Satamboué, député national et cadre du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. André Tamboué Katamboué, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les fidèles auditeurs de la Radio Kati.
Pourquoi le FCC n'a encore rien dit par rapport à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs prévue le 6 avril prochain dans 14 provinces de la RDC?
Oui, mais merci madame pour cette pertinente question. La position du FCC en fait correspond exactement à la ligne de conduite et aux hésitations qui sont légitimes du camp de la famille politique de toute l'opposition quant à la fiabilité de la centrale électorale. Aujourd'hui, nous avons une CENI totalement monopolitique et qui est totalement acquise à la solde de l'actuelle majorité parlementaire.
Mais on y trouve des membres de l'opposition dans l'actuelle CENI.
Un membre de l'opposition.
Monsieur Manara est de l'opposition, Monsieur Agé est de l'opposition.
Excusez madame, nous sommes pas peut-être aujourd'hui, le sujet n'est pas sur la composition de la centrale électorale, mais en réalité vous devez le connaître et tout le monde sait qu'il n'y a aucun membre de l'opposition au niveau de l'actuelle composition de la CENI. Tous les membres de l'opposition, ce sont des anciens membres de l'opposition qui ont été recrutés dans la majorité et qui sont là avec des serments pour servir la majorité et ils font leur sale besogne. Pour nous, la question électorale sur les 14 provinces à compétir est d'abord posée le problème des trois pesanteurs. Le pesanteur au niveau de l'organisateur. Est-ce que nous avons aujourd'hui une CENI capable d'organiser des élections démocratiques, transparentes, fiables et crédibles? J'ai dit non et nous allons voir dans les jours qui viennent comment cette CENI va invalider les candidatures tout à fait conformes, mais qui vont être considérées comme des candidatures gênantes par rapport au ticket entre guillemets de la fantomatique Union Sacrée. Et nous avons un autre présentateur, c'est le bénéficiaire. Est-ce que l'Union Sacrée, en tant que plateforme politique fantomatique, est capable de supporter un jeu politique démocratique? Je dis non, parce que nous avons vu à l'Assemblée nationale et au Sénat les premières épreuves devant la confrontation. Elle a été, l'Union Sacrée, elle a été incompétente et incapable d'affronter le deal du jeu démocratique. Elle va aboutir tout simplement à un jeu des candidats fantômes où seul le ticket de l'Union Sacrée sera absolument les tickets à voter. Dans les cas contraires, on va chercher les superfuges contre tous les candidats autres qui vont représenter une certaine menace. Et le troisième présentateur, c'est au niveau de l'acteur, que sont les députés provinciaux ou les assemblées provinciales. Ces assemblées provinciales ont été embrigadées par certaines missions des caciques de la présidence qui ont sillonné tous les coins et recoins de la République uniquement pour faire peur aux députés provinciaux, pour leur dire non, nous sommes venus vous dire que le président de la République veut tel candidat, et vous avez entendu vous-même, vous l'avez révélé, qu'il y a une certaine résistance de la part de quelques députés provinciaux qui savent encore que nous sommes dans une République. Le président Félix Tshisekedi a hérité d'un État avec des institutions fiables, il ne doit pas tout compromettre comme marche de ce pays dans la démocratie. Et donc pour nous, on ne peut pas s'exprimer par rapport à ces élections d'emblée, parce que nous savons déjà qu'il n'y aura pas des élections. Nous attendons un processus de cooptation et de nomination des gouverneurs au gré de la volonté de ceux qui se réclament proches de l'actuel chef de l'État.
André Tamboué, ce que vous reprochez à l'Union Sacrée aujourd'hui, on l'a vécu il y a quelque temps avec le FCC. Le FCC l'a fait, a imposé des candidats gouverneurs aux assemblées provinciales.
Non, c'est faux et archi-faux, parce que moi-même, j'étais originaire de la province du Sankourou. J'étais du FCC quand j'avais dit non à la candidature de l'honorable Lambert Mende, qui était candidat gouverneur du FCC à l'époque. Nous avons dit non et nous avons voté contre le ticket du FCC à l'époque. Et vous vous rappelez bien, en 2007, il y avait des candidats gouverneurs du FCC à l'époque, Alliance pour la majorité présentée, qui avaient échoué devant les candidats du MLC. Mais c'est actuellement là, avec l'Union Sacrée, où les reculs démocratiques est très visible et très sonore. Et on ne peut plus aujourd'hui se voiler la face pour comparer l'ancien système du nouveau, parce que le nouveau est pire que l'ancien.
Vous dénoncez l'organisateur qui n'est pas crédible selon vous, l'Union Sacrée qui n'aime pas les jeux démocratiques.
Selon moi, parce que selon le ministre des Finances, Kazadi, qui est membre de l'Union Sacrée, qui a dit que M. Kadima a surfacturé déjà les véhicules pour les agents de la CENI. Qu'est-ce qu'il ne peut pas facturer? Facturer. Même les vols pour aller dans un chef ou lieu, la CENI va surfacturer. Même les paiements et la corruption, ça va s'installer au sein de la CENI, parce qu'une personne qui est incapable d'organiser le premier des marchés publics et de manière fiable ne peut plus rien faire de crédible en termes d'opérations électorales.
Vous savez au moins que la clôture de l'opération d'enregistrement des candidatures, c'est demain.
Oui, c'est un calendrier qui ne nous engage pas sur les plans
donc,
formels.
Le FCC n'est pas concerné. C'est ça qu'il faut retenir.
Comme politique qui adhérent aux idéaux de la démocratie. Nous ne pouvons pas accompagner un processus qui est totalement biaisé. L'Union Sacrée a rendu le pays inerte et toutes les assemblées provinciales et les institutions provinciales inertes pendant plus d'une année, uniquement dans l'intérêt de fragiliser le développement à la base et de faire un recul démocratique. Aujourd'hui, c'est la soif d'organiser les élections. C'est pas parce qu'elle a besoin que le peuple bénéficie d'un certain développement. Non, c'est parce qu'on veut installer des acolytes de la campagne du chef de l'État à travers les provinces. Et par conséquent, nous qui sommes conscients que le Congolais en sortira perdant, nous ne pouvons pas accompagner ces processus induits et mal orientés.
Donc on retient que le FCC n'est pas concerné par ces élections.
FCC en tant que famille politique ne peut pas se prononcer avec quelqu'un qui ne l'engage pas. Mais les individualités, quelqu'un peut être du FCC et dire je vais faire échec à l'Union Sacrée dans ma province. Parce que nous sommes dans un principe, comme le professeur l'a si bien rappelé, même si à l'Union Sacrée le principe du mandat non impératif n'est pas opérant. Mais chez nous, ce principe opère. Donc les gens peuvent aller chercher, en vertu de leur libre conscience, des mandats, les suffrages, des grands électeurs qui sont les députés provinciaux et appartenir au FCC. Mais le FCC en tant que famille politique ne peut pas coaliser, parce qu'aujourd'hui, il est visible que pour gagner un ticket dans les assemblées provinciales, il faut une coalition. Mais vous serez amené, dans la majorité des cas, à coopérer avec des partis dont qui ont été tout simplement ciselés par la machine de la mécanique de l'Union Sacrée, où vous trouvez un parti qui a une partie à l'Union Sacrée et une partie dans l'opposition. Je prends le cas de mon parti, le PPRD majorité dans ma province du Sankourou, mais comment ça va se présenter, parce qu'il y a que le responsable du parti à Kinshasa qui est dans l'opposition qui devrait désigner les candidats. Il y aura des candidats de notre parti, mais qui ne peuvent pas solliciter la signature de celui qui engage la couleur de notre parti, et donc ils vont aller soit en indépendant, soit accepter d'autres formules hybrides de présentation des candidatures. D'ailleurs, vous trouvez que partout là, quand vous voyez ce qui circule sur les réseaux sociaux, vous trouvez que l'Union s'attendait d'organiser une véritable tricherie, parce que la constitution et les lois de la République disent que lorsqu'il y a eu éviction d'un exécutif, celui qui doit le remplacer doit émaner de sa liste ancienne. Mais ce n'est plus le cas. Regardez comment on a chamboulé tout et on est en train d'assister carrément à une destruction flagrante de notre démocratie.
Professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur Alphonse Maïndo, est-ce qu'il y a des enjeux derrière ces élections?
Oui, madame, merci beaucoup. Je pense qu'il y a de vrais enjeux derrière ces élections. Parce qu'on pourrait se demander, mais pourquoi faire des élections à quelques mois de la fin du quinquennat? Donc ça se termine dans 22 mois exactement. Et donc pourquoi faire des élections de gouverneurs maintenant? Parce que les nouveaux élus, ils auront à peine le temps de faire leur programme. Ils n'auront pas le temps pour commencer à mettre ça en œuvre. Donc, ça ne va pas, l'intérêt de la pertinence de ces élections, ce ne sera pas améliorer les conditions de vie des populations. Enfin, rien du tout de tout ça. Mais je pense que...
Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela, professeur? Parce que l'objectif pour l'Union Sacrée, c'est de mettre à la tête des provinces des gens qui seront en cohérence avec le programme du chef de l'État.
Oui, madame, les gens qui seront en cohérence avec les programmes du chef de l'État. Mais les programmes du chef de l'État, c'est quoi le programme du chef de l'État? Et au niveau de chaque province, il y a des spécificités et ces spécificités doivent être prises en compte pour pouvoir faire un programme qui soit cohérent avec les réalités locales. Et le temps pour mettre ça en place, ça vous prendra, s'ils sont élus au mois d'avril, et ça prendra encore quelques mois, peut-être 2 ou 3 mois pour mettre ça en place, faire adopter par les assemblées, et on connaît comment ça fonctionne les assemblées. Il faut que les gens soient payés pour faire une session, tout ça, et pour voter un truc, ils doivent être motivés par des enveloppes et il faut chercher de l'argent pour ça. Et donc je pense que ce n'est pas vraiment cette cohérence là qui sera visée ici. À mon avis, l'enjeu majeur pour ces élections, c'est la consolidation du pouvoir qui est en place, qui a fini la phase d'implantation et qui est rentré maintenant dans la phase de consolidation. Il s'agit ici de marquer vraiment pour dire que on demeure en place, on est là pour garder le pouvoir le plus longtemps possible. Et après avoir eu le contrôle du Parlement, le contrôle de l'appareil sécuritaire, donc l'ANR, l'armée, la DGM, la justice, la Cour constitutionnelle, et après avoir pris le contrôle de la CNI, de la Banque centrale, etc. Donc maintenant, il faut poursuivre ce contrôle des différents appareils de l'État pour s'assurer que 2023, on va entrer dedans en essayant de maîtriser le maximum de paramètres pour que le président puisse garder le contrôle du pays pour 5 nouvelles années. Et donc pour moi, ça c'est l'enjeu majeur.
Ce qui est normal pour un parti au pouvoir.
Oui, mais justement, le président, il est là, mais il n'est pas sûr qu'il puisse gagner les élections. Donc il faut mettre en place des mécanismes pour faire ça. Et les gouverneurs de province sont constituent un maillon important dans ce dispositif. Parce que les gouverneurs de province seront donc des gens qui vont organiser la campagne du président au niveau de leur province pour utiliser les moyens d'État, etc. Et puisqu'on sait que le régime en place est actuellement en perte de popularité au niveau des différentes provinces, puisque les gens n'ont pas vu les actions gouvernementales rencontrer les préoccupations des citoyens. Alors les gouverneurs seront donc, si vous voulez, à l'avant-première en utilisant les recettes des provinces pour financer cette campagne électorale, pour financer les partis, mais également pour, au cas où il y aurait des manifestations pour contester les résultats ou etc. Le gouverneur de province, c'est un maillon important en termes de capacité pour mater, pour réprimer les manifestations qui pourraient contester les résultats des élections. Donc il y a là un enjeu majeur, c'est consolider le pouvoir qui a été acquis en 2019 pour qu'on le garde au-delà de 2023. Pour moi, c'est l'essentiel.
Il y a certains candidats, plutôt certains députés provinciaux qui fustigent le fait de voir Kinshasa leur imposer des candidats qui ne maîtrisent pas les réalités des provinces.
Oui, mais c'est vraiment ce que je ne peux pas comprendre de la part de ceux qui détiennent le pouvoir. Ils ne peuvent pas se lamenter. Ceux qui pourraient se lamenter, c'est nous, les citoyens, qui n'avons pas le droit de vote. Mais chaque député, il a une voix. Et si tous les députés ne sont pas contents des candidats qu'on veut leur imposer, ce qu'ils ont à faire, c'est de ne pas suivre le mot d'ordre. On va les amener nulle part, voyez-vous. Donc, ils vont exercer librement leur conscience, leur libre arbitre, pour pouvoir choisir les candidats qui leur convient. Qu'ils poussent ceux d'entre eux ou des gens localement implantés en qui ils ont confiance et qu'ils considèrent comme étant des gens qui sont acquis aux intérêts locaux, aux intérêts de la province, qu'ils soient ces gens-là et pas les gens qu'on leur impose pour obéir à d'autres logiques, pour répondre à des enjeux qui les dépassent eux au niveau provincial. Et c'est cela, si vous voulez, moi je peux, si j'ai un mot à dire à ces députés, c'est de dire ne vous lamentez pas, ne vous plaignez pas, vous avez le pouvoir, c'est à vous de décider qui sera votre gouverneur et qui répond, qui puisse évidemment prendre en compte vos propres occupations et ceux de vos électeurs. C'est-à-dire les populations de vos entités.
Comment vous analysez la réaction du FCC qui jusque-là ne s'est pas encore prononcé par rapport à cette élection des gouverneurs prévue le 6 avril prochain?
Alors, je peux comprendre. Je comprends la réaction du FCC. C'est une espèce de frustration.
Ouais, vous, pas seulement le FCC, il y a la Mouka aussi.
Le FCC est frustré parce que voit que les dés sont déjà jetés. Tout est mis en place pour que l'expression de suffrage, comme certains députés se plaignent de ça, pour que ce soit les candidats de l'Union sacrée qui puissent gagner. Alors, on veut éviter un échec qui serait lamentable pour l'image du parti. Donc, on préfère ne pas y aller. Parce que si on y va, on sait qu'on va perdre. Alors, les gens préfèrent ne pas se salir, ne pas aller droit devant un échec qu'on sait d'avance. Je comprends ça de cette manière-là. Et donc, c'est une fuite en avant. Au lieu de mobiliser, parce que jusqu'ici, dans la plupart des assemblées provinciales qui sont concernées, ce sont les membres, les anciens, ou les membres, je peux dire, ou les anciens membres du FCC ou du PFRD qui sont majoritaires. Ce que l'FCC aurait dû faire, c'est de remobiliser ses troupes pour leur dire, voilà, vous avez essayé de rallier les nouveaux régimes, regardez comment on vous a traité, regardez ce que vous avez obtenu, regardez ce que vos électeurs ont pu obtenir, et rien du tout. Alors, maintenant, c'est le temps de prendre votre revanche et de donner une bonne leçon à ceux qui sont venus pour chercher à vous débaucher. C'est ce qu'ils auraient dû faire s'ils étaient à leur place.
Merci, professeur. On va prendre ces auditeurs qui sont très nombreux à nous appeler sur notre standard. Professeur Jean-Claude Tulumbayi, on va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Lissala, dans la province de la Mongala.
Eric Basserelli à Lissala de la Mongala. Pour ma part, j'estime que l'Union sacrée de la nation aura des surprises par rapport à ses calculs ou des raisons que les coordinations provinciales de l'Union sacrée pour la nation sont encore non effectives dans les provinces. Je cite le cas de la province de la Mongala, où il y a assez d'amateurs de l'Union sacrée de la nation. Et la deuxième raison, c'est que actuellement, les députés provinciaux totalisent presque 9 mois d'arriérés de leur émolument. Aller aux élections, ça, payer ces députés provinciaux, c'est notamment ouvrir la porte à la corruption et à la confusion. Et de trois, les députés provinciaux sont disposés, selon la perception des choses, à voter leurs collègues députés provinciaux afin que ces derniers deviennent gouverneurs. Cette manière de faire va leur permettre de préparer les élections de 2023. Ainsi, face à cette situation, l'Union sacrée de la nation doit travailler sans minimiser la colère des députés provinciaux afin de doter les provinces de gouverneurs compétents pourvus de probité morale, lesquels gouverneurs aideront la République lors de la mise en œuvre et l'effectivité du projet de développement de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Je finis par dire que l'avenir politique du président de la République actuelle est également tributaire des élections de gouverneurs qui sont prévues prochainement.
Professeur Tulumbayi.
Effectivement, des surprises en matière électorale, on s'y attend toujours. Nous nous sommes préparés pour gagner ces élections-là et que je ne vois personne qui soit aussi nostalgique pour penser remettre une seule de nos provinces au PPRD à la famille Kabila. Nous sommes plus que jamais, avec l'ensemble de la population, déterminés de tourner définitivement cette page-là. Donc, les surprises sont démocratiques, mais nous sommes préparés. Il y a des discussions très avancées avec avec les ministères des budgets et des finances sur les possibilités d'épurer les arriérés de salaire des émoluments des députés provinciaux. Et ça, c'est une tâche à laquelle le chef de l'État s'accroche absolument. Il faut que les gens soient payés, bien évidemment, et ça doit être fait dans les plus brefs délais possibles. Mais ici, lorsque j'entends l'honorable Tamboué parler de la CENI monopolistique, parler de la CENI qui n'a pas de membres du PPRD, de l'opposition, tout ça, mais nous avons accepté les propositions du PPRD que les plus durs, les plus extrémistes des kabilistes entrent dans cette CENI pour s'assurer de la transparence des élections. C'est Manara, hein, il ne dira pas qu'il y a plus coréas, plus dur au PPRD que Manara, il y a Gemma Tembo, c'est pour leur montrer combien nous sommes ouverts à la contradiction et que tout est en train de se faire conformément à la loi électorale et les conditions pour des recours éventuels, qu'il s'agisse du plan administratif ou judiciaire, sont très ouvertes. C'est ce qui signifie que lorsque ils refusent d'aller à ces élections, ils connaissent déjà leur sort, parce que dans la plupart des cas, c'est des gens qui peuvent facilement se faire lapider dans nos provinces-là. Mais lorsque le pauvre parle de délai quelques mois, oui, mais c'est une année, 9 mois, ce n'est pas peu de choses pour attendre que les provinces sombrent ainsi dans l'anarchie et qu'on n'élise pas des gouverneurs. C'est une longue période pendant laquelle le chef de l'État est, comme vous le sentez, vous le remarquez, déterminé de réaliser de très grandes choses, notamment avec le programme de développement à la base et des grands investissements qui sont en train maintenant de toquer à nos portes. Il faut des gouvernements provinciaux responsables pour assurer tout cela et améliorer effectivement les conditions de vie de nos populations.
Professeur Jean-Claude Tchilumbaï, excusez-moi, je vais lire cette réaction de Patrick qui nous écrit depuis Matadi dans le Congo central, qui dit ceci: je ne comprends pas la logique de l'Union sacrée de présenter certains candidats qui ont été déçus par leur assemblée provinciale. C'est une façon de dire aux Congolais que nous plaçons nos pions, non pas pour changer les choses, mais pour travailler pour le président de la République.
Les conditions et les circonstances dans lesquelles certains de ces candidats-là, gouverneurs, sont peut-être tombés, moi je ne sais pas les affirmer ici. Nous avons vu comment la même assemblée provinciale avait déchu l'honorable Jean-Marc Kaboun, la même assemblée nationale l'a réélu avec brio plus qu'avant. Ça, c'est, je ne peux pas entrer dans ces considérations. Je ne connais pas pour quelles raisons il a été destitué hier et la question, c'est de se demander si ces raisons perdurent. Mais l'enjeu de cette élection n'est nullement pas de consolider le pouvoir. Si, tout de même, on sait que le pouvoir il doit être consolidé, le pouvoir ne doit pas être faible parce qu'il symbolise notre stabilité. Mais ici, l'enjeu n'est pas de contrôler le Parlement, comme j'ai entendu la dire, et qu'il y a une partie du PPRD, FCC, une partie du PPRD à l'Union sacrée. Ce n'est pas la première fois que vous voyez ça. Nous avons connu une partie du PPRD dans ce pays, de l'IDPS dans ce pays, FCC, et une autre partie de l'IDPS au Rassemblement, avec des députés élus de l'IDPS. Nous avons vu une partie de l'IDPS au gouvernement et l'autre dehors. Nous avons vu une partie de l'IDPS dont l'honorable Sami Badibanga avec le PPRD. Autrefois, ils ont formé un gouvernement et une partie de l'IDPS toujours à l'Assemblée dans l'opposition.
Et vous voulez reproduire ce que vous avez dénoncé il y a quelque temps.
C'est des pratiques générales qui se sont ancrées. C'est des pratiques constitutionnelles telles que nous les avons vécues. Ils doivent les assumer.
Et vous les encouragez, professeur Tchilumbaï, vous voulez les reproduire alors qu'il y a quelque temps vous avez dénoncé ces pratiques.
C'est des sources de droit, les coutumes, madame. Les coutumes constitutionnelles sont des sources très importantes de droit. Et la constitution du pays, on l'applique selon qu'on l'a appliqué et que une classe politique, une population a accepté, interprété cette application-là. Et lorsqu'il dit que l'enjeu c'est contrôler les provinces pour gagner les élections à venir, mais c'est faux. Kabila avait toutes ses provinces, il avait placé ses potentats qui tuaient, qui torturaient, il n'a pas gagné les élections, il les a perdues, surtout là où il y avait les gouverneurs les plus cruels comme Amboujmaï. Il les a perdus, Chadar a perdu, donc ce n'est pas ça l'enjeu. Contrôler les institutions, c'est l'objectif de tout parti politique, c'est ça même la finalité d'une démocratie, parce qu'on compétit pour contrôler les institutions.
Merci,
c'est
professeur.
Ça, nous, à l'Union Sacrée, à l'UDF, nous avons cet objectif-là, mais nous le faisons conformément à la loi de la République.
André Tambwe, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
C'est Toumaïn Silvano depuis Bukavu au Sud-Kivu. À mon avis, je pense que politiser les choix du peuple face au mot d'ordre des partis politiques serait une manière de ne pas vouloir changer les choses ou de faire un cercle vicieux. Car c'est le même marteau qui frappe, mais on en a changé la manche.
Réaction André Tambwe.
Je pense que je partage totalement l'avis de notre fidèle auditeur depuis Bukavu. Et je pense que le propos prononcé par le professeur tout à l'heure, en flagrante contradiction, nous permet de réconforter cette opinion de notre compatriote. Quand le professeur a dit qu'ils sont venus pour balayer le kabilisme et en ne jamais le revoir résivre, mais il y reprend en disant à telle époque, sous le régime du FCC, il y a eu ceci et ça devient une coutume constitutionnelle. Je ne sais pas quelle magie, un débauchage devient une coutume constitutionnelle. Flagrante contradiction. Il nous renvoie à deux côtés à l'Union Sacrée, notamment mon grand frère Didi Manara et mon grand frère Agé Matembo. Et lui-même cite des cas qui le contredisent, notamment Bruno Tshibala et Sami Badibanga. Ils sont chevronnés du combat de l'UDPS, mais lorsqu'ils ont traversé, lorsqu'ils sont entrés au gouvernement, ils n'ont jamais voulu les considérer comme encore faisant partie de représentants de l'UDPS dans ces institutions-là. Aujourd'hui, que les gens récupérés, quasiment dans les mêmes circonstances, doivent être considérés comme les représentants de la famille politique qui leur a dénié cette qualité de manière officielle. Donc ici, nous avons une somme intellectuel qui nous apprend une chose et son contraire, et surtout qu'il est professeur et représentant du peuple. C'est extrêmement grave. Et vous pouvez encore regarder une autre contradiction du professeur. C'est lorsque il reconnaît que son parti politique a pour vie finalité la conquête du pouvoir et que les autres ont pour finalité d'assister à leur conquête comme ça de manière passive. C'est ça qu'il veut. C'est pour cette raison qu'on réduit toute la machine démocratique à une simple caisse de résonance. L'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, les cours et tribunaux, tout est ramené à une caisse de résonance quand vous n'avez pas appliqué ce qu'ils appellent le principe de l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée n'existant pas juridiquement, nous avons affaire seulement à des principes immuables inscrits dans la nature comme ça, où les gens les déclament mais ne les écrivent pas, et on ne sait sur quelle charte les gens signent l'adhésion à l'Union sacrée. Les élections qui vont venir seront tout simplement une mascarade, parce que il n'y a aucun indice sérieux d'une organisation des élections démocratiques implantée dans le décor que l'on voit. Aujourd'hui, nous constatons qu'à l'Union Sacrée, la référence devient le régime de Kabila. Mais qui les ont injuriés? Comment vous allez combattre un régime avec les mêmes acteurs? Dites-moi aujourd'hui, qui a combattu avec Étienne Tshisekedi et qui joue un rôle moteur dans le pouvoir actuel? Toutes les institutions sont récupérées par les gens qui ont travaillé avec Kabila. C'est-à-dire l'Union Sacrée a besoin uniquement des ressources de l'ancien régime. Quel que soit ce qui va arriver, le sans-cours sera contre l'Union Sacrée et va sévèrement sanctionner les présences Félix et sa famille politique aux échanges à venir.
Professeur Alphonse Maïn doit m'apprendre aussi pour vous cette réaction.
C'est John Obiang à partir du Ziro, province du haut où elle est. Personnellement, je ne vois pas d'enjeu politique quant à l'élection du gouverneur et des vice-gouverneurs, car la prémisse est négative. La conclusion sera aussi négative. L'élection de gouverneur n'a jamais été le choix judicié, réfléchi et à l'engagement personnel de nos élus professionnels. Les candidats étaient toujours imposés par l'autorité morale, raison pour laquelle, quelques mois ou années, il est déçu. Je ne sais pas si des gouverneurs sont élus à fonction des mandats ou à fonction des systèmes politiques de l'air. À mon avis, l'élection de gouverneur et vice-gouverneur, c'est une formalité d'une basculation de FCFK à l'Union Sacrée. Je ne vois aucun miracle que les nouveaux gouverneurs vont faire pour améliorer les objectifs quotidiens de la population. Car le guide, c'est la politique nationale.
Professeur Alphonse Maïndo, brève réaction. Il vous rejoint dans votre analyse de tout à l'heure, cet auditeur d'ici.
Oui, oui, effectivement. Donc, on est dans une élection qui, pour les populations des provinces, ça ne représente aucun enjeu. Les enjeux, c'est pour le régime en place qui veut placer ses pions pour contrôler les différentes institutions. C'est ce que notre co-débatteur ici vient de reconnaître. Pour eux, c'est juste contrôler les différentes institutions. Alors, mais on ne contrôle pas pour le contrôle, simplement, mais on contrôle parce qu'on veut consolider son pouvoir, on veut s'assurer qu'on est en place, qu'on demeure en place. Et si c'était simplement contrôle pour le contrôle, alors ce serait très 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 grave. C'est qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont aux affaires. Si votre objectif, c'est simplement contrôler les institutions, alors vous devez dégager et le plus rapidement possible dans l'intérêt du peuple congolais. Alors moi, personnellement, je ne vois pas comment un gouvernement qui n'a pas réussi à améliorer les conditions de vie des gens pendant 3 ans, voyez-vous, et va le faire dans la dernière année électorale, alors que c'est l'année où tout le monde est agité pour faire campagne, pour se mobiliser à gauche et à droite. Ce n'est plus l'année de l'action gouvernementale. Donc, on a eu là si on devait vraiment écouter la population pour améliorer ses conditions de vie, on aurait transformé la question de... On aurait résolu, ou en tout cas contribué à diminuer l'intensité de violence à l'Est. On aurait supprimé la rame depuis longtemps. On aurait remboursé les citoyens congolais qui ont été dépouillés, escroqués de cette taxe rame. Et on a eu 5 mois des grèves des infirmiers et sans qu'on puisse satisfaire à leurs revendications. Et là, les professeurs d'université, les chefs de travaux, les assistants sont en grève depuis le 5 janvier et il n'y a pas encore de solution en vue. Et c'est ça, si vous voulez. Il y a une suite, une litanie importante de revendications sociales qui ne sont pas entendues, malheureusement.
Toussaint Kazadi dit ceci, il aurait fallu laisser les assemblées provinciales faire leur travail en toute indépendance au lieu d'imposer ces candidats dits de l'Union sacrée, car nous avons été victimes de cette imposition dans le passé, notamment au Kasaï oriental, avec l'ancien gouverneur Maweja qui était imposé à l'assemblée provinciale de notre province. Aujourd'hui, que plusieurs personnes ont manifesté leur volonté de diriger la province au nom de l'Union sacrée, ils sont écartés au détriment d'un seul individu qui n'incarne absolument rien de leadership. D'ailleurs, normalement, dans un pays qui se veut démocratique, on n'impose jamais les candidats gouverneurs en écartant les autres. Professeur Jean-Claude Chigumbaï, brève réaction, ça sera votre conclusion.
Personne, madame, je vous ai dit que je suis l'organe chargé de sélectionner des candidatures à l'UDPS. Les choses ont été faites en toute démocratie et dans la plus grande transparence. Nous avons un critérium objectif qui tient compte du critère légal. Ça signifie que nous, à l'UDPS, nous ne pouvons pas désigner un candidat qui ne répondrait pas à ce critère et qui serait décalé par la CENI. Nous avons tenu compte de ça et imaginez qu'il y ait des fonctionnaires, des gens, fonctionnaires de l'État qui n'ont pas présenter leur mise en disponibilité et qui veulent être candidats gouverneur et d'autres considérations que nous avons intégrées, ces candidats devraient être écartés, pas par nous, mais bien par les prescrits légaux. Et il y a des candidats qui n'ont pas répondu au critérium du parti. On ne peut pas imaginer, je prends un exemple, qu'un candidat, quelqu'un qui a été candidat aux élections sur la liste PPRD en 2018 et qui s'est battu contre nos députés qui vont devoir voter, viennent aujourd'hui vouloir obtenir l'investiture du parti pour aller négocier les votes de ces mêmes députés contre lesquels il s'est battu pendant le même cycle électoral. Nous avons des conditions statutaires que nous avons respectées. On n'a écarté personne et qu'il y a un code de bonne conduite. Tout celui qui a concouru sur la liste UDPS et que le critère a frappé ou qui a perdu l'élection devrait donner de la chance au candidat retenu pour que l'on avance, sinon la commission de discipline du parti sera activée pour s'occuper de tout celui qui voudrait faire du désordre.
Merci, professeur Jean-Claude Chilumbaï. André Tamboué Katamboué, votre conclusion.
Oui, madame, je conclue en disant que les élections qui se profilent à l'horizon ne sont pas en réalité des élections. Il s'agit d'une machine résultante de la mécanique politique mise en place par l'Union sacrée pour tenter de sauver la peau du président de la République qui devient totalement irréversible par rapport à son politique et parce qu'il ne sera jamais réélu pour un autre mandat parce qu'il a échoué lamentablement en tout. Pas d'emploi créé, pas de développement à la base. Il a chafaudé la décentralisation, il a négligé les assemblées provinciales, c'est pas la dernière minute qu'il va tenter de récupérer ce qu'il a tout gâché dans le fonctionnement des institutions provinciales. Au peuple congolais de rester vigilant et de ne jamais croire que ces élections amènent qu'un souffle nouveau. C'est toujours un nouveau cercueil pour l'actuelle famille politique qui dirige les institutions sans aucune action de développement.
Merci André Katambwe, professeur Alphonse Maindo.
Oui, ce que moi je pourrais dire, c'est peut-être faire une espèce d'interpellation de conscience des députés qui devraient privilégier cette fois-ci l'intérêt de la population en élisant véritablement des candidats qui vont travailler tant soit peu pour améliorer les conditions de vie, essayer de contribuer. Sauf si ils veulent simplement, par crainte de nouvelles échéances électorales, ils veulent se constituer une cagnotte pour préparer leur retraite politique puisqu'ils craignent de ne pas être réélus prochainement. Mais qu'ils se réveillent, qu'ils se ressaisissent, au moins qu'ils fassent un dernier baroud d'honneur, en disant non aux manipulations ou aux intimidations avec des candidats parachutés ou imposés.
Merci professeur Alphonse Maindo. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé sous la supervision de Martin Sobujangwe. Merci à Polydor Basunga qui était à la mise en onde, présentation et coordination. Kelly Nkouté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.